RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
Alexandre Biggerstaff.
Et pas seulement, on vient de présenter la team et c'est Rémi Dumont qui ouvre le bal avec le journal des Bleus. Rémi.
Bonjour à toutes et à tous. Jour J, France-Danemark, c'est aujourd'hui à 17h. Les Bleus peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en 4 victoires. Tactique, changement dans la composition, les infos sur ce match décisif. Mandanda, Dembélé, Upamecano, nous nous rendrons là où tout a commencé pour ces Bleus d'Evreux. Bête noire de l'équipe de France, attention au Danemark, un adversaire en confiance et qui inspire la méfiance.
Le morning du mondial.
Et on aura d'ailleurs l'invité du morning, Gaël Clichy, ancien de l'équipe de France, tout à l'heure dans une heure. Les Bleus jouent ce soir à 17h face au Danemark, leur deuxième match dans ce mondial. Un match tout simplement décisif.
Comme en 2018, après sa victoire face à l'Australie pour son entrée en lice, la France peut se qualifier dès le deuxième match pour les huitièmes de finale du mondial. Une rencontre cruciale pour les Bleus, donc, qui devrait opérer quelques changements par rapport à son premier match mardi, à enregistrer un retour important. On est avec Arthur Perrault, notre reporter RMC en direct du Qatar. Salut Arthur. Est-ce que tu as quelques infos sur la compo des Bleus pour ce soir, s'il te plaît?
Avec la mise en place hier soir de Didier Deschamps pour le dernier entraînement à huis clos et comme changement de taille, Benjamin Pavard qui cède sa place à Jules Koundé, la faute à ses pertes de balles et un manque de justesse sur le premier match avec le Barcelonais. Le sélectionneur opte à droite pour un défenseur central de formation. Pas de changement en revanche devant, l'attaque de feu reste en place. Griezmann, Dembélé, Mbappé et Giroud sont reconduits avec comme objectif une victoire à tout prix. Synonyme de place en huitième de finale, un 4-3-3, du coup après le 4-2-3-1 choisi face à l'Australie pour l'équipe de France ce soir face au Danemark.
Bonne nouvelle enfin, on en discutera aussi dans l'émission, mais c'est le retour de Raphaël Varane. Mon cher Arthur, c'est perçu comment au sein du groupe France ce retour?
Le retour d'un cadre, hein, tout simplement, 87 sélections pour Raphaël Varane, un peu plus d'un mois après sa blessure à la cuisse. On rappelle qu'il a participé aux 4 dernières séances d'entraînement. Selon ses proches, ses sensations sont vraiment bonnes pour lui qui a suivi le même processus de reprise que Karim Benzema. La question a d'ailleurs été posée hier en conférence de presse à Didier Deschamps sur l'importance qu'apporte Raphaël Varane à cette équipe. Il a précisé qu'il aurait pu jouer le premier match, qu'il était apte, mais voilà, ce n'est pas les dernières séances qui ont changé quelque chose. Il est en forme et il a de l'expérience, du vécu. Ça, c'est quelque chose qui est certain pour l'équipe de France. Et que le plus important, c'est que maintenant, il se sente prêt dans sa tête et dans son corps.
Merci beaucoup Arthur Perrault en direct du Qatar pour nos envoyés spéciaux sur place pour RMC. Merci beaucoup Arthur.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. 4-2-3-1 donc, comme au premier match, Varane de retour et Koundé à la place de Pavard.
C'est le principal changement à noter concernant les choix de Didier Deschamps. Koundé latéral droit, lui qui a pourtant été formé au poste de défenseur central. Alors on a compté, cette saison Koundé a joué 10 matchs, toutes compétitions confondues. 6 fois il a joué en défense centrale et 4 fois comme latéral droit. Si c'est pas un spécialiste du côté, ce n'est pas une découverte non plus pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'avait expliqué Didier Deschamps en conférence de presse le 9 novembre lorsqu'il avait dévoilé sa liste pour le Mondial.
J'ai eu de longues discussions avec eux, ils savent ce que j'attends de deux. Mais, comme d'autres, il y en a certains qui ont alterné, qui peuvent jouer dans l'âge, qui peuvent jouer latéraux. Il y en a énormément, hein. C'est pas spécifique aux Français. Hein. Au match du Brésil contre la Tunisie au Parc, Militao, il joue arrière-droit. Vous allez me dire, c'est pas un arrière-droit. Il joue arrière-droit. Alors Koundé, c'est pas un arrière-droit. Il a déjà joué au Barça. Voilà.
Le voilà laisse quand même un peu perplexe. Hein.
On dirait quand même le sketch du chasseur. Bon, un bon chasseur, hein, voilà. Les titularisations de Dembélé ou Upamecano, elles, ne laissent pas perplexe en revanche.
Non, pas du tout. Ils étaient titulaires contre l'Australie et avaient répondu présent avec Steve Mandanda remplaçant mardi. Ils représentent à eux trois le contingent d'Evreux en équipe de France. Ils font la fierté de leur club formateur et de toute une ville, comme nous le raconte Valentin Jamin.
Sous le logo du club d'Evreux, le slogan « Générateur d'avenir » plante le décor. Ici, les formateurs sont fiers de raconter leurs souvenirs. Romaric Bultel a coaché Dembélé et Upamecano.
Ousmane, c'était un garçon maigrichon, farceur, mais très talentueux. Il touchait le ballon avec toutes les surfaces de contact, intérieur, extérieur, talon, semelle. D'ailleurs, garçon introverti, timide. C'est le genre de garçon qu'on aurait pu oublier dans un vestiaire ou dans un bus. Hein.
De titulaire contre l'Australie, Mandanda remplaçant est lui arrivé ici à 9 ans grâce à l'ancien coach des gardiens, Philippe Leclerc.
Il était à la boxe, il courait. assuré sur le stade. J'étais Loire, le foot ça t'intéresse? Ah, mais moi si je joue au foot c'est pour être gardien de but. Hein. Il me dit on court pas quand on est gardien de but.
Il restera 6 ans, les voir tous aujourd'hui au Qatar est une récompense, raconte le président Thierry Orcière.
On a toujours eu sur Évreux des éducateurs compétents, même dans les petites catégories, tous les éducateurs sont bien diplômés. Tous les ans on a des joueurs qui partent dans des clubs pro.
Comme les anciens joueurs Mathieu Bodmer ou Bernard Mendy, mais eux n'ont pas connu la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde au Qatar, où se sont tout de même rendus plusieurs milliers de supporters français. Ils seront d'ailleurs 5000 ce soir à soutenir les Bleus au stade 974 pour ce match décisif. Alors au-delà de l'ambiance qu'ils promettent de mettre, il y a toute une organisation pour supporter les Bleus. Reportage de Martin Bourdin.
C'était le sésame qu'Olivier cherchait depuis quelques jours dans les rues de Doha.
Les Bleus !
Un petit tambour de 40 cm de diamètre, pas facile à trouver.
On a fait une heure et demie de recherche dans le souk avant que quelqu'un nous dise bah il y a un magasin de musique, ça s'appelle comme ça. On a tapé sur Google Maps, on était à côté.
Les Bleus, non, t'as pas été dernier.
Ça aurait pu être bien sûr beaucoup mieux, on a l'habitude de faire beaucoup mieux. Alors un instrument de musique, ça va aider. Ça va aider, on espère être un peu meilleur.
Depuis mercredi, ça discute beaucoup entre supporters français sur les réseaux sociaux par message. Le mot d'ordre de Toto, c'est de se regrouper une fois dans les tribunes.
Quitte à se coller sur l'autre, tant pis, à pas respecter les sièges. Se grouper et se motiver entre nous, quoi. Mais après, c'est vrai que les Qataris sont spectateurs.
Alors pour former un vrai carré bleu, certains vont tenter de se faire de la place.
Faire le ménage, ouais, les décaler ou les monter. Ou leur dire tout simplement, bah suivez le mood et puis vous allez voir, ça va être marrant.
Mais ce soir, une nouvelle fois, les Français ne seront pas nombreux, environ 5000 sur les 40 000 places disponibles dans le stade.
On fait quoi? On fait un chalalala entre 1000 personnes? Est-ce que c'est ça vraiment qui va pousser tout le stade? Je suis pas super optimiste.
Tout l'inverse de Toto.
Le premier match, c'était un essai. On va s'améliorer de jour en jour.
Cette fois, par exemple, les supporters français se sont donné rendez-vous en début d'après-midi pour partir ensemble vers le stade.
Du soutien, les Bleus en auront besoin ce soir pour battre le Danemark, une équipe qui ne réussit pas aux Bleus ces derniers temps.
Ces derniers temps et même depuis très longtemps. Le bilan de la France face au Danemark est simple. 17 matchs, 8 victoires, 2 nuls et 7 défaites, soit moins de 50% de victoires pour les Bleus. Attention aux Danois, donc demi-finalistes du dernier Euro. Nicolas Pelletier nous raconte comment le Danemark est devenu la bête noire des Bleus.
Le constat du sélectionneur Didier Deschamps sur l'équipe danoise est clair.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères.
Des misères créées par la nouvelle bête noire des Bleus avec 2 défaites en 2 matchs cette année face aux Danois. Didier Deschamps compte bien s'appuyer sur ces rencontres pour inverser la tendance.
Évidemment, tout ce qu'il y a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise qui a toujours cette capacité de changer de système et ça peut amener à des difficultés différentes.
Il faut remonter à l'Euro 2000 pour trouver trace d'une victoire française face aux Danois en compétition officielle. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, espère surtout corriger les petites erreurs du premier match contre l'Australie.
Ce sera un match décisif pour la qualification et on regarde un petit peu ce qui a été fait sur le premier match. Il y a beaucoup de travail à faire.
Que ça soit à l'Euro ou en Coupe du Monde, à chaque fois que les Bleus n'ont pas perdu face aux Danois, la France a gagné la compétition.
Des statistiques qui plaident en faveur des Danois forcément et qui donnent confiance aux rouges et blancs. Et ce, malgré un départ poussif dans la compétition après le match nul face à la Tunisie 0-0. Pas de quoi effrayer Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, persuadé que le Danemark aura du répondant face aux champions du monde.
C'est évidemment un match important pour nous après le départ qu'on a eu. Il s'agit d'un adversaire qui appartient aux meilleurs du foot mondial. Ils sont les tenants du titre. La qualité, le talent qu'ils ont en France est spectaculaire. On est prêt pour un grand match. J'ai beaucoup de respect pour la France, mais on sait aussi qu'on est fort. C'est un autre tournoi, mais nous savons que si nous jouons à notre meilleur niveau, on a une chance d'obtenir un bon résultat. Et pour cela, il faut être meilleur dans la qualité de jeu, mais nous sommes prêts.
On l'a entendu, hein, les Danois sont prêts, mais ils devront se méfier du co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
Monsieur Olivier Giroud, 51 réalisations et qui, en cas de but ce soir, dépasserait Thierry Henry et deviendrait le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Le tout à 36 ans. Alors, si les Danois ont un plan pour contrer Mbappé, pour Giroud, ils ont uniquement le savoir-faire de Simon Kjær, coéquipier danois de Giroud à l'AC Milan.
Sur le terrain, Giroud montre qu'il est sans doute meilleur qu'il ne l'a été avant. Il est très dangereux. Évidemment, notre défenseur Simon Kjær le connaît très bien. Nous avons parlé de petits détails. Bien sûr, il peut bien parler de lui pendant longtemps. J'espère que ce sera à notre avantage. Nous verrons bien.
Et allez les Bleus évidemment. Rapidement les dernières news de la Coupe du Monde, Rémi.
Oui, hier, surprise dans le groupe B, l'Iran a battu le Pays de Galles de Gareth Bale 2-0 alors que l'Angleterre a été tenue en échec par les États-Unis 0-0. Dans le groupe A, les Pays-Bas ont fait match nul 1 partout face à l'Équateur. Le Sénégal, lui, a battu et éliminé le Qatar 3-1. Le Qatar, premier pays hôte en Coupe du Monde à perdre 2 matchs en phase de groupe. Aujourd'hui, le programme 11h, Tunisie-Australie, match du groupe D, celui de la France. 14h, Pologne-Arabie Saoudite. 17h, France-Danemark donc. Et à 20h, Argentine-Mexique dans le groupe C. Match décisif pour les Argentins et Lionel Messi qui seront éliminés en cas de défaite après avoir perdu leur premier match face à l'Arabie Saoudite.
Le journal des Bleus avec Rémi Dumont.